Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. On va parler de Bruxelles aujourd'hui et des transports en commun. Les transports en commun de Bruxelles avec peut-être leur inadaptabilité aux personnes en situation de handicap. On va en parler avec vous, Frédéric Dobruskes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur et enseignant à l'ULB et plutôt dans tout ce qui est le domaine de la géographie, mais donc de la faculté des sciences.
Tout à fait, et en géographie des transports plus particulièrement.
Transport, donc ça tombe bien en fait d'avoir fait cette étude, une étude en fait sur comment est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent prendre les transports en commun à Bruxelles. C'est une étude en deux parties, ici c'est la deuxième partie. Alors d'abord, d'où vient cette idée de recherche ?
Alors, il y a quelques années, il y avait eu un appel européen pour financer des projets de recherche sur le thème de l'accessibilité en ville. Et donc, avec un groupe de chercheurs, notamment de l'UC Louvain, et aussi des Français et des Turcs, on s'est dit, il y a déjà beaucoup de calculs et d'analyses qui sont faits de l'accessibilité, mais on considère toujours monsieur et madame tout le monde comme s'il n'y avait pas de contraintes, alors qu'on sait qu'une partie de la population est en situation de handicap moteur, visuel, auditive, cognitive. Et on s'est dit, pour tous ces gens-là, les calculs d'accessibilité ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, il faudrait, une fois pour toutes, s'intéresser à eux et à elles, et pas seulement faire comme si n'importe qui pouvait embarquer à n'importe quel arrêt dans n'importe quel transport public.
Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est vrai que quand on parle de personnes en situation de handicap, on ne parle pas spécialement par plus d'accès à l'emploi ou à l'enseignement. C'est ce que vous mettez dans votre article d'ailleurs.
Alors ça a été fait, on a trouvé deux articles en tout et pour tout qui ont fait des analyses plus ou moins comme les nôtres et peut-être pas aussi complètes. Et en fait, je pense que ça tient au fait en particulier que les études scientifiques du handicap sont essentiellement des études qualitatives et très peu versé sur le volet quantitatif. Et donc, je n'ai rien contre le qualitatif, mais il n'y a pas d'objectivation du déficit d'accessibilité qui est subi par les personnes en situation de handicap sur le plan quantitatif et donc sur le plan exhaustif à l'échelle d'une agglomération. Et donc, c'est là qu'on a innové.
Et donc, qu'est-ce que vous entendez par là, par le qualitatif ? Donc là, c'est plus...
Le qualitatif, vous interrogez 20 personnes, vous discutez avec elles, elles vous font part de leur vécu, de leurs contraintes, etc. Ce qui est vraiment tout à fait nécessaire. Et d'ailleurs, on l'a fait également en prélude aux analyses quantitatives. Et à contrario, les analyses quantitatives, comme le nom l'indique, vous allez quantifier le problème que vous évaluez. Vous allez utiliser un matériel chiffré pour tirer des conclusions sur le phénomène que vous étudiez.
Ok, et donc, quand vous parlez de personnes en situation de handicap, dans ce que vous avez étudié, autant le volet 1 que le volet 2, enfin, je suppose que c'est une recherche globale, en fait,
oui, bien sûr,
que vous avez séparée en plusieurs parties. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez, vous, par personnes en situation de handicap ? Parce que c'est vague, quelque part.
Alors, c'est une très bonne question, parce que, effectivement, quand on a commencé la recherche, on s'est rapidement rendu compte que le vocabulaire n'était pas neutre. Alors, on dit parfois les handicapés, les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap. Et on a réalisé que quand on parle de personnes en situation de handicap, on insiste sur le fait qu'elles sont en situation de handicap parce que l'espace public, les bâtiments, les arrêts de transport en commun, les véhicules de transport en commun ne sont pas adaptés dans le sens d'être inclusifs et donc d'être accessibles pour tout le monde. Et donc, quand on utilise ce vocable de personnes en situation de handicap, on transfère en quelque sorte la responsabilité depuis les individus. C'est quand même pas de leur faute s'ils ont des problèmes moteurs, cognitifs, auditifs et autres, visuels aussi. Mais on renvoie la responsabilité vers les institutions ou les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui ont aménagé les bâtiments, les lieux, acheté des trams ou des bus avec des planchers qui ne sont pas à la bonne hauteur, etc. etc. Et donc c'est un renversement de la responsabilité et de la cause du problème que de dire personnes en situation de handicap. Donc vraiment, les mots ne sont pas neutres.
C'est un vocable d'ailleurs qu'on utilise de plus en plus pour justement ne pas aussi mettre la focale sur juste le handicap. Et donc vous ici, vous parlez de personnes en situation de handicap moteur, moteur, auditif, visuel ou cognitif. Comment est-ce que vous avez... parce que je suppose qu'une personne avec une déficience auditive ne va avoir moins de problèmes pour se déplacer à Bruxelles oui. qu'une personne à mobilité réduite.
Alors, en fait, dans l'étude, on s'est limité à trois situations de handicap, donc moteur, visuel et cognitif, parce qu'on voilà, on peut pas tout faire en trois ans. Et alors, ce qui est intéressant, et là, c'est justement toute la richesse de l'approche qualitative, c'est que en discutant avec des associations qui représentent, qui défendent les intérêts de ces personnes à besoins spécifiques, et en réalisant un certain nombre de parcours dans la ville avec ces personnes pour voir et entendre ce qu'elles avaient à dire sur les obstacles auxquels elles font face, on s'est rendu compte qu'il y a toute une diversité de profils, en fait. Et donc, on ne peut pas réduire les personnes en situation de handicap moteur. On peut pas faire un profil type parce qu'il y a différentes... différents niveaux, différents degrés, différentes situations de handicap. Certains ont plus de force dans les bras, d'autres moins. Certains ont plus d'assurance ou de confiance en elles et donc s'autorisent à faire avec un fauteuil roulant ce que d'autres n'oseraient pas faire, etc. Donc c'est vraiment un monde beaucoup plus complexe et diversifié que ce qu'on imagine quand on n'est pas confronté à ces situations.
Donc vous avez utilisé trois situations de handicap entre guillemets, mais vous avez pour chaque, enfin même pas pour chaque en fait, vous avez plutôt développé des contraintes, c'est bien ça ?
Tout à fait. Alors comme on n'arrivait pas à réduire les personnes en situation de handicap à des profils types, on s'est plutôt dit quels sont les critères qui doivent être satisfaits pour que ces personnes, dans leur diversité, puissent accéder. Donc, par exemple, une contrainte, c'est l'absence de lacunes, donc l'absence d'écart, à la fois horizontal et vertical, entre le quai de bus, de tram, de métro, et le bus, le tram ou le métro. Et cette contrainte d'absence de lacunes, on l'a déclinée en deux niveaux, on l'a dit au sens strict, et aussi plus flexible, parce que vous pouvez être dans un fauteuil roulant et ne pas pouvoir franchir la lacune, mais si quelqu'un vous aide, ou si vous avez l'agilité et la force dans les bras, alors vous pouvez malgré tout franchir une certaine lacune. Donc on a fait comme ça 2 degrés pour la même contrainte. Pour certains...
Par exemple, c'est les marches, par exemple, pour accéder, ou alors quand il y a un écart entre le quai et la...
Oui, voilà. Donc, par exemple, il y a encore beaucoup de stations de métro aujourd'hui où vous avez les vieilles rames de métro qui passent, enfin, les anciennes rames de métro qui passent, et le quai qui n'est pas strictement à la bonne hauteur par rapport au rail, et ça vous fait 4-5 cm, parfois même 6 ou 7 cm d'écart vertical entre le niveau du quai et le niveau du plancher. Dans d'autres stations, en particulier des stations qui sont en courbe, comme par exemple à la gare centrale, du fait de la courbe, il y a aussi un écart horizontal qui est trop important entre le quai et la rame de métro. Et donc, vous risquez sérieusement de coincer vos roues entre les deux, ce qui est évidemment dangereux.
OK. Et donc, ça, c'était donc les deux premières catégories, donc avec lacune au sens strict et avec lacune au sens plus...
Plus flexible,
plus flexible, on a dit. Je ne trouvais plus le nom. Et ensuite ?
Alors, on a également considéré le fait que les arrêts soient dotés d'un abri avec un siège, parce que vous avez des personnes qui ne peuvent pas rester debout longtemps, et donc qui ont littéralement, si elles doivent attendre 15 minutes un bus ou un tram, elles ont besoin de s'asseoir. On a considéré le fait de savoir s'il y avait une toilette publique à proximité des arrêts. Donc, on ne se rend pas compte.
Mais c'est pas gagné, ça.
Pour beaucoup de personnes, non, il y en a très peu.
Enfin, je vous avoue que quand on est une femme, on s'en rend très vite compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'étais assistant de sexe et de genre masculin, c'est un problème dont je ne m'étais pas rendu compte quand j'organisais les excursions. Il a fallu qu'une collègue féminine me dise « Frédéric, tu ne pense pas assez au problème des toilettes, parce que tes étudiants masculins peuvent faire pipi au bord de la route, mais pas les étudiantes. » Et donc c'est pour bien montrer qu'effectivement, la situation dans laquelle on est soi-même peut faire qu'on a des œillères et qu'on ne se rend pas bien compte des difficultés, d'où l'importance de dialoguer avec les publics qu'on étudie et pas faire de la recherche en chambre.
Donc ça, c'était la troisième.
Oui, alors je ne sais pas si on va toutes les faire, mais alors il y a aussi...
Mais il y en
le...
avait quatre, en fait.
Non, il y en avait sept quand même. Donc, mais on va peut-être encore en citer deux qui sont importantes. C'est la présence de ce qu'on appelle les marquages podotactiles, qui permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de s'orienter dans les stations de métro, de repérer où la porte du tram ou du bus à l'avant va se trouver pour embarquer. Et alors, pour le métro, on a imaginé une contrainte, pas de station complexe. Parce que vous avez des stations qui sont très faciles, par exemple la station Larroux, vous descendez un escalier ou un ascenseur, vous êtes sur le quai directement, c'est facile. Et vous avez d'autres stations comme Montgomery, Rogier, Gare du Midi. Vous avez plusieurs quais à des endroits différents, des cheminements parfois complexes pour y arriver. Et il y a des gens qui sont littéralement désorientés, voire en situation de panique, quand ils se retrouvent dans ces stations. Et donc, on en a tenu compte également.
Surtout quand on a ou pour aller au même endroit, donc l'arrêt Simonis, il s'appelle Simonis et Reine-Élisabeth. Dans un sens,
il y a une station Simonis, une station Élisabeth qui sont le même pôle. Et effectivement, c'est pas très compréhensible.
Voilà. Voilà, différentes situations. Et donc, la première partie de votre étude, c'était par rapport à l'accessibilité des arrêts.
Tout à fait.
Et donc en restant surface, non pas spécialement surface.
Les arrêts et les stations souterraines,
on ne prenait pas les véhicules.
Là, non, c'était donc seulement les arrêts et les stations souterraines. Et là, par exemple, si on prend une contrainte comme l'absence de lacune au sens strict, on trouve qu'il n'y a qu'un tiers des arrêts et stations de métro qui satisfont la contrainte. Donc vous avez deux tiers des arrêts, et en fait toutes les stations de métro, parce que le métro n'est jamais adapté, sauf avec les toutes nouvelles rames de métro dans certaines stations. Mais sinon, vous avez deux tiers des arrêts, ça fait 1700 arrêts quand même, sur 2400 et des poussières, qui ne sont pas complètement inclusif du point de vue de cette contrainte et qui devrait être retravaillé, donc réaménagé. Donc c'est un travail titanesque, en fait. Si on prend la contrainte absence de lacune, mais en étant flexible, Donc ça veut dire qu'on suppose que soit les individus ont les capacités qu'il faut pour franchir une petite lacune, soit ils sont aidés par quelqu'un qui les accompagne. Là, il y a la moitié des arrêts qui conviennent, mais quand même encore la moitié qui ne conviennent pas. Donc ça, là aussi, ça reste quand même énorme.
Et donc si on prend aussi le côté pododactyle, ça y est, j'ai retenu le terme, c'est vrai que là aussi, en fait, il y a très peu, finalement, les arrêts en souterrain sont peut-être plus accessibles, mais au niveau des, par exemple, des bêtes arrêts de bus, c'est plus compliqué.
Alors, podotactile, vous avez un tiers des arrêts en surface, enfin un tiers des arrêts pour tout le réseau qui conviennent, et dans le métro, vous n'avez qu'un cinquième des stations, parce qu'en fait, il y a une partie, en fait, quasiment toutes les stations avaient été dotées de marquages podotactiles, mais qui étaient faits n'importe comment. Et donc on est en train de les enlever, enfin ils ont été enlevés déjà en bonne partie, ils sont en train d'être progressivement remplacés. Si vous allez Port de Namur par exemple, il y a un tout nouveau marquage podotactile qui lui est fait convenablement. Et donc ça pose la question des bonnes volontés mais mal réalisées en fait.
Ouais,
et donc même chose avec la hauteur des arrêts de tram et bus. Il y a un moment, la STIB adopte, donc c'était il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années, la STIB adopte un nouveau référentiel sur l'aménagement de ses arrêts, mais elle le fait toute seule, sans se concerter avec les publics concernés. Du coup, elle adopte des normes, en quelque sorte, qui sont pas bonnes, quoi. On dit les arrêts de bus doivent être à 15 cm, les arrêts de tram à 25, mais pas de chance, il fallait 18 pour les bus et 31 pour les trams. Et en plus, quand il y a un arrêt mixte, à l'époque, on faisait la moyenne, donc 15 et 25, la moyenne c'est 20 cm, on faisait un arrêt de bus à 20 cm qui convenait ni aux uns ni aux autres. Et donc c'est voilà, le genre de situation absurde. Et donc maintenant il y a des normes qui conviennent, on sait comment il faut aménager les lieux, mais il y a, j'ai cité des chiffres, des centaines, des milliers d'arrêts à réaménager. Donc c'est une tâche qui est colossale malheureusement.
Et donc ça, c'était pour le volet 1. Le volet 2, là, il y a vraiment c'est la prise en compte des trajets entiers, donc de porte à porte ou d'arrêt à arrêt.
Tout à fait. Alors dans un deuxième temps, on a considéré les itinéraires, donc pas seulement les arrêts, mais donc les itinéraires au départ de tous les arrêts du réseau de la STIB vers 20 destinations spécifiques, donc la gare centrale, les hôpitaux académiques, le campus où nous sommes actuellement, la place Flaget en tant que lieu de sortie, etc., etc. Et donc là, on a fait des calculs d'accessibilité d'abord pour monsieur et madame tout le monde. Donc on a calculé le temps d'accès, le nombre de correspondances, etc., sans aucune contrainte. Et puis on a refait les mêmes calculs en retirant, contrainte par contrainte, en retirant tous les arrêts, mais aussi tous les véhicules qui sont inadaptés. Et on voit comment le temps de parcours augmente, comment le nombre de correspondances augmente. Et donc, pour vous donner juste un exemple, vers la gare du Midi, en moyenne, si vous n'avez pas de contraintes, ça prend une demi-heure pour aller à la gare du Midi. Donc, parfois, c'est moins, parfois, c'est plus, mais en moyenne, une demi-heure. Si vous appliquez la contrainte absence de lacune en étant strict, vous passez à 90 minutes.
C'est énorme.
En moyenne.
Pour
certains, c'est beaucoup plus. Voire même, vous ne pouvez plus y aller, tout simplement, parce que vous n'êtes plus dans des conditions où il y a moyen d'y arriver. Et si vous prenez la clinique Saint-Luc, pour prendre un pôle quand même de santé très important, on est à 51 minutes en moyenne.
C'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà beaucoup, mais on est aux marges de la ville, donc ce n'est pas tout à fait étonnant. Et on monte à 111 minutes, donc quasiment 2 heures en moyenne, si on applique la contrainte absence de lacune au sens strict. Et donc c'est évidemment des situations qui sont a priori inacceptables. Ça, je pense que, je sors de mon rôle de scientifique, mais je pense que humainement, socialement, personne ne devrait trouver que c'est normal, en tout cas.
Surtout dans une ville, où quand même les transports en commun, en fait, on peut se dire, on les critique beaucoup, mais on est quand même pas mal desservi.
Oui. Alors, si on regarde la Belgique, on peut dire qu'il y a 2-3 villes qui ont un vrai réseau de transports en commun urbain où vous pouvez vraiment vous déplacer dans la ville. C'est à minima Bruxelles et Anvers. Et c'est vrai que le maillage à Bruxelles est très bon. Donc, il n'y a quasiment aucun quartier dans lequel on n'est pas desservi par les transports en commun. Mais la question est de savoir, effectivement,
comment,
qui peut embarquer et qui peut débarquer, quoi.
Par exemple, à l'ULB, Parce que là, on est pas mal desservis. Hein. On a le 71, le 8, ouais. le 25.
Mais donc l'ULB, 72. La situation est catastrophique si vous êtes en situation de handicap, parce que la plupart des arrêts qui desservent l'ULB n'ont pas été aménagés convenablement. Il y a notamment le quai qui est abaissé pour donner accès à des garages. Donc c'est les usagers des transports en commun qui doivent faire l'effort de s'adapter à un accès garage plutôt que la voiture qui rentre dans le garage qui s'adapterait à la hauteur de l'arrêt. Donc voilà encore bien comment les choses ont été conçues. Il y a quand même pas si longtemps, quoi, le réaménagement de l'avenue Beul et de nos arrêts, il n'a pas 10 ans. Quoi. Donc il y a moins de 10 ans, on a encore aménagé des arrêts n'importe comment.
C'est dingue quand même à se dire, on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, et l'inclusion, là en fait, on est encore dans plus de l'intégration que de l'inclusion, quelque part.
Ben en tout cas, oui, on n'est pas à un stade d'inclusion, en effet, et donc il faut bien comprendre que ce que demandent les personnes en situation de handicap, en tout cas la plupart d'entre elles, c'est de pouvoir se déplacer en toute autonomie, parce que parfois, on leur rétorque, vous n'avez qu'à vous faire aider, vous n'avez qu'à demander l'aide des autres voyageurs. Il y a un service de taxi, minibus à votre disposition si vous le souhaitez. Mais non, ces personnes, quand vous discutez avec elles, la plupart demandent de pouvoir se déplacer avec vous et moi en toute autonomie et en toute liberté, sans être dépendant.
Oui, mais c'est ça. Donc comment est-ce que cette étude a été faite ? Donc vous avez dit, vous avez accompagné des personnes en situation de handicap dans leur trajet ?
Alors dans un premier temps, pour bien comprendre ce que ces personnes à besoins spécifiques vivaient, il y a plusieurs dizaines de trajets qui ont été faits dans la ville et qui ont été donc observés. Et on a, donc c'est les collègues qui l'ont fait, mais donc ils ont écouté ce que les personnes avaient à dire. Et puis, on a modélisé les déplacements. Donc, on a considéré plus de 2700 arrêts de départ multipliés par 20 destinations. Donc, ça doit faire 43 000, 44 000 trajets, grosso modo. Et on a modélisé à l'ordinateur les itinéraires et donc les temps de trajet qui vont avec, et aussi le nombre de correspondances. Et donc, on l'a fait d'abord sans contrainte. Et puis on a répliqué ces calculs pour chacune des 7 contraintes et on a vu comment le temps de parcours augmentait, comment aussi le nombre de correspondances augmentait, parce que parfois vous avez un trajet direct pour aller d'un endroit à un autre, mais si les arrêts ne sont pas adaptés à l'origine ou à la destination, vous commencez à faire des trajets avec des correspondances, ce qui est une source d'inconfort et source de perte de temps supplémentaire. Et donc on a mesuré ça également. Et on a mesuré aussi l'augmentation de la distance de marche, parce que parfois vous devez paradoxalement marcher plus quand vous êtes en situation de handicap, parce que l'arrêt qui est le plus proche de votre origine ou de votre destination n'est pas aménagé de manière convenable.
Et puis il y a même des endroits qui à Bruxelles sont quasi inaccessibles à certaines personnes.
Oui, tout à fait. Alors il y a notamment la nouvelle prison de Haren. De mémoire, il y a la DEPS également. Et alors il y a aussi des cas où il y a des travaux. Et parce qu'il y a des travaux, on a aménagé à la va-vite des arrêts temporaires, mais n'importe comment. Donc vous débarquez comme il y a 20 ou 30 ans au milieu de la rue et entre deux voitures. Et donc là, même si au terme des travaux, on suppose que les arrêts seront bien aménagés, pendant la phase de chantier, je pense notamment au tram 82 à Drogenbos, où les travaux auront duré 2 ou 3 ans au total, on se demande d'ailleurs pourquoi, pendant toute cette durée du chantier, l'accès aux arrêts est très 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 dégradé.
Donc tout ça, les travaux, évidemment, ça ne peut pas... Évidemment,
on les a inclus dans l'analyse, tout à fait.
Parce que c'était à cette époque-là, mais oui. Donc... Donc les résultats, on l'a dit, hein, donc des endroits qui sont inaccessibles, des temps de trajet qui sont... Enfin, des itinéraires qui sont beaucoup plus longs que sans contrainte. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça après ?
Alors d'abord, on l'a publié dans Brussels Studies.
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, mais alors on a choisi exprès Brussels Studies parce qu'on sait que c'est une revue qui est très lue en dehors des cercles académiques. Et pour ça, je pense qu'en tant que chercheur, on doit vraiment bénir l'existence d'une telle revue dans laquelle les articles sont publiés en français, en anglais et en néerlandais, en libre accès, donc n'importe qui peut les lire gratuitement sans les abonnements extrêmement coûteux des éditeurs scientifiques commerciaux. Et on sait que les articles de Brussels Studies sont lus dans les cercles politiques, administratifs, etc. Donc, à minima, on espère que, ce faisant, on contribue à faire passer le message qu'il y a urgence en la matière et que les 80, plus ou moins les 80 arrêts par an qui sont réaménagés ou aménagés quand sont des nouveaux arrêts, ben c'est un rythme tout à fait insuffisant par rapport à l'urgence des besoins. Et donc deuxième élément, maintenant que tout ce matériel est publié en ligne gratuitement, on espère aussi, on donne du matériel pour toute association ou tout citoyen, citoyenne qui voudrait contribuer au débat sur la question. Et donc maintenant, quand ces associations ou ces personnes veulent réclamer une amélioration de leur droit à l'accès à la ville pour toutes et pour tous, ben elles peuvent à minima référer à l'objectivation du problème qui est faite dans ces deux articles ici publiés dans Brussels Studies.
D'ailleurs, vous avez travaillé avec des ONG et avec des associations.
Oui, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le consortium d'études pour la partie bruxelloise du projet, donc c'est d'abord en termes académiques une association entre l'UC Louvain et l'ULB. Mais on a travaillé également avec la STIB, avec Bruxelles Mobilité, avec le CAWAB, donc qui est le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, qui est donc une association qui chapeaute les différentes associations qui défendent les droits des personnes en situation de handicap. Et alors, on a travaillé aussi avec l'Observatoire de la santé et du social de la région bruxelloise. Donc vraiment, on a cherché vraiment à être le plus en contact possible avec à la fois les pouvoirs publics et les personnes en situation de handicap et leurs représentants.
Donc c'était fait aussi en partenariat avec la STIB, qui est consciente en fait de ces lacunes.
Mais donc la STIB en est tout à fait consciente. Alors après, peut-être que au sein de la STIB, donc nous on a travaillé avec le département qui s'occupe des personnes à besoins spécifiques et avec le département qui s'occupe de l'aménagement des arrêts. Donc ces personnes-là, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles savent très bien quelle est l'ampleur du problème. Et vraiment, je pense que c'est des gens qui sincèrement font leur possible pour améliorer les choses. Mais après, je ne vous cache pas, les moyens sont limités. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas infinis. On ne va pas dire qu'ils sont limités, parce que la STIB représente quand même un poste budgétaire énorme dans le budget régional bruxellois. Après, la question, c'est comment les ressources de la STIB sont réparties entre les différents services. Et donc là, je n'engage que moi et pas du tout les personnes de la STIB qui ont travaillé avec nous. Mais voilà, on investit des sommes énormes dans des projets très, très, très coûteux. C'est clair, avec le même argent, en pas très longtemps, on pourrait décider de mettre aux normes toute l'infrastructure existante, en fait, et peut-être accélérer le déclassement des vieux trams pour les remplacer par des tramways à plancher bas, etc. Donc il y a quand même, au niveau de la STIB, il y a un débat potentiel sur l'orientation des budgets d'investissement qui sont, je le répète, très importants à l'échelle du budget régional bruxellois.
Parce que j'avais une question, il y a peut-être une question qui se pose, c'est que comme les personnes en situation de handicap mental n'ont pas réellement accès au réseau de la STIB, parce qu'il n'y a que la STIB que vous avez étudié dans cette étude, comme les personnes donc, en situation de handicap utilisent peu le réseau de la STIB, parce qu'il n'est pas spécialement adapté. Est-ce que finalement, la STIB ne se dit pas, mais comme il n'utilise pas, pourquoi est-ce qu'on irait faire des investissements colossaux pour des personnes qui vont de toute façon pas utiliser notre... Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Alors, je ne pense pas que ce soit le discours à la STIB aujourd'hui.
Avant, peut-être.
Peut-être jadis, mais aujourd'hui, ce n'est plus le discours. Je pense, depuis l'incident qui a eu lieu en 2008 ou 2009, quand on s'est rendu compte que le prolongement du tram 8 jusqu'à Roudebeek, n'était pas inclusif dans l'aménagement de ces arrêts. Je pense que depuis lors, il y a vraiment eu un électrochoc. Et je pense que plus personne ne dit que le réseau ne doit pas être inclusif et que c'est un faux problème et que ça concerne qu'une minorité de personnes. Oui, c'est une minorité de personnes, mais qu'importe, tout le monde a le droit d'accéder à la ville et aux différents quartiers. Et pour ceux qui auraient encore une petite hésitation, il faut quand même aussi rappeler que quand vous rendez le système inclusif pour les personnes qui sont vraiment en situation de handicap, vous aidez aussi toutes les personnes qui sont dans des situations intermédiaires, donc des personnes qui sont peut-être âgées, mais pas encore au stade d'être reconnues ou considérées comme en situation de handicap, des parents ou des grands-parents avec des poussettes d'enfants, des personnes qui sont temporairement avec des béquilles, enfin, il y a plein de situations, juste des personnes qui ont des rhumatismes et qui ont mal au dos, par exemple. Toutes ces personnes-là, vous allez améliorer leur quotidien également si vous rendez les transports en commun vraiment inclusifs pour tout le monde.
Pourquoi est-ce que vous avez utilisé que la STIB pour cette étude? Donc, parce qu'à Bruxelles, on retrouve la STIB de l'INTEC et puis également la SNCB.
Tout à fait. Alors, c'est un sujet dont on a beaucoup débattu. On l'a fait parce que la raison principale, c'est que la région de Bruxelles-Capitale n'a autorité que sur la STIB. Elle n'a pas d'autorité sur les bus régionaux wallons et flamands de l'Ain et TEC, enfin TEC et de l'Ain, et elle n'a pas autorité sur la SNCB. Et donc on a assumé de ne considérer que l'opérateur régional STIB. Mais on pourrait étendre la situation aux autres opérateurs. Moi, je publie avec le CAWAB chaque année une carte. Enfin, surtout le CAWAB publie avec mon aide chaque année une carte qui fait l'état de l'accessibilité des gares SNCB en Belgique. Et on fait un zoom sur Bruxelles. La situation est clairement catastrophique. Donc il y a là aussi énormément de travail à faire. Donc il y a beaucoup de gares qui ne sont pas encore accessibles. Certaines sont accessibles, mais il n'y a pas de personnel dans la gare. Et donc, s'il n'y a pas de personnel, légalement, vous n'avez pas droit d'embarquer ou de débarquer du train. Donc, le contrôleur...
Il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps.
Il y a eu un scandale à juste titre il n'y a pas longtemps. Et puis, même quand les quais sont accessibles, après, vous avez 36 sortes de trains différents avec des hauteurs de plancher différentes. Et donc, vous pouvez avoir des gares qui sont accessibles, mais des trains qui ne le sont toujours pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Je ne serais pas étonné si on faisait la même analyse au niveau du réseau de la SNCB. Je pense qu'on aurait des résultats encore bien pires que ce qu'on a trouvé avec le réseau bruxellois.
Bah, rien qu'un exemple, on a parlé un peu tout à l'heure, la gare centrale qui, déjà au niveau du métro, c'est déjà pas évident. Mais alors là, en plus elle est en travaux maintenant.
Je ne savais pas que la gare centrale était en travaux,
mais au niveau du métro, en fait.
Oui, tout à fait. Oui, et puis vous avez des gares, on a mis des ascenseurs, etc. Mais il y a personne pour vous aider à monter dans le train. Donc vous n'êtes pas censé, si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, vous n'êtes pas censé embarquer dans le train parce qu'il n'y a pas de personnel pour vous aider. Donc c'est vraiment une situation particulière.
Pour une société inclusive à Bruxelles et dans les transports, si vous pouviez, la première chose à faire, ce serait ?
Ce serait investir massivement dans l'inclusivité, donc rediriger des budgets. Donc au sein du budget d'investissement de la STIB et de Belliris, donc le Fonds fédéral pour Bruxelles, rediriger les budgets vers des investissements qui garantissent l'inclusivité du système de transport public pour que les transports publics soient réellement publics.
Mais alors c'est quoi? C'est au niveau des arrêts, au niveau...
Pas sur le les arrêts,
matériel
les véhicules,
roulant, pour l'instant, ça va encore.
Enfin, les arrêts, des véhicules, voilà, il faut repenser tout ce qui doit l'être.
Et ce nouveau matériel, pour vous, il est plus inclusif aujourd'hui?
Alors les dernières rames de métro qui ont été livrées sont effectivement inclusives, mais encore faut-il que les quais du métro soient bien à 100 cm, donc 1 mètre au-dessus du rail, ce qui n'est pas le cas partout. Et normalement, les trams et les bus aujourd'hui ont tous la même hauteur de plancher, ce qui normalement offre une homogénéité à terme et donc une constance dans les normes qu'il faut appliquer pour l'aménagement des bus et des trams. Donc normalement, on sait vers où on va. La question, c'est à quel rythme est-ce qu'on y va.
Et alors, juste dernière question, pourquoi est-ce qu'on s'en soucie aujourd'hui et que pas il y a 20, 30 ans, 40 ans, pourquoi Est-ce qu'on est dans une société qui justement s'ouvre peut-être plus à la différence, ou est-ce que c'est plutôt une revendication justement des personnes à mobilité réduite, pas uniquement évidemment, des personnes en situation de handicap qui revendiquent en fait ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ?
Alors j'aimerais bien pouvoir vous dire que la société a évolué, mais franchement je n'en sais rien, il faudrait que des sociologues... l'étudie, mais c'est clair qu'il y a un travail de militantisme qui est fait par les associations qui défendent les personnes de situation de handicap et qui ont tapé sur le clou, avec raison, parce que vraiment ce sont des droits élémentaires qui sont d'ailleurs inscrits dans les textes légaux nationaux, enfin européens, nationaux et régionaux. Mais ça ne va pas encore de soi dans la conception des projets, de l'espace public, etc. Il y a encore des problèmes. Et donc ces associations n'ont eu de cesse que de réclamer leurs droits les plus élémentaires. Et je pense que voilà, ça a franchement contribué à faire changer les choses. Mais ça reste encore compliqué. Et on ne parle ici que de Bruxelles, mais vous pouvez aller voir comment sont aménagés les arrêts en Wallonie, la situation est bien pire que ce qu'on a à Bruxelles.
Vous avez été voir ailleurs qu'en Belgique ?
Alors, pour cette étude, on n'est pas allé voir, mais maintenant qu'on a fait cette recherche, chaque fois que je voyage, partout je regarde, donc c'est vraiment devenu un mécanisme automatique. Je ne sors plus d'un train ou je n'embarque plus dans un train, n'importe quel transport public, dans n'importe quelle ville, sans regarder comment c'est fait, si c'est bien fait, si c'est mal fait. Je pense que maintenant, les gens, mes proches avec qui je voyage, ils sont préparés à ce que je refasse un compte rendu, parce que c'est vraiment devenu un réflexe de regarder. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas été confronté, qu'on ne s'est pas intéressé au sujet, ça peut passer inaperçu. Mais une fois qu'on y prête attention, c'est vraiment très intéressant. Il y a des villes où la situation est pire qu'à Bruxelles, il y a des villes où elle est franchement meilleure.
Il n'y a pas des exemples pareil, c'est ce que vous avez vu. Donc,
à Paris, typiquement, on a un vieux métro, des escaliers partout, à part sur la dernière ligne, donc la ligne 14. Mais tout le reste, vous avez des escaliers quasiment partout. Même si par miracle, vous arrivez sur le quai, il y a encore un écart entre la hauteur des quais et la hauteur des planchers. Qui est vraiment phénoménal, y compris dans le RER aussi, c'est pas mieux. Par contre, chez nos partenaires de la recherche à Strasbourg, tous les arrêts de tram et quasiment tous les arrêts de bus sont aménagés convenablement. Donc voilà, c'est possible. Il y a des villes scandinaves aussi qui sont beaucoup plus inclusives. Donc voilà, il y a des villes où c'est mieux, des villes où c'est moins bien. Et donc, il faudrait que Bruxelles tende vers le mieux. Et puis, on peut aussi se dire qu'en tant que capitale européenne, ce serait bien d'être exemplaire.
Absolument. Et ça va être donc le mot de la fin. Frédéric Tambrusquez, on parlait avec vous aujourd'hui de l'inclusivité des transports publics à Bruxelles. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On peut retrouver l'article...
sur le site de Brussels Studies, donc brusselsstudies.be.
Voilà, et il y a beaucoup d'articles d'ailleurs sur pas mal de sujets sur justement Bruxelles. Je vous invite à aller le voir, regarder ce site, donc Brussels Studies. Et puis d'ailleurs, on vous en parle quand même régulièrement sur Radio Campus, en tout cas dans Histoire de savoir. Merci beaucoup d'être venu et à une prochaine fois. Merci, au revoir.
Au plaisir, au revoir.
Assise en terrasse, eau pétillante, citron sur glace, j'avais en tête une ligne de basse, un truc funky, un peu badass.
Ouais, c'est ça.
Je regardais juste les gens passer, costard et cravate bien nouée, mocassin italien ciré, attaché case au poignet. Moi j'avais juste un jean usé, je me sentais décalé, déclassé, dépassé, détaché, sans attache, désenchanté, comme Mylène l'avait chanté. Les ours polaires sont en maillot, même les dromadaires ont trop chaud. Pour oublier tout ce chaos, je me suis mise derrière le piano. Duke Ellington niveau zéro, je me suis lancée dans un solo. Je marchais simplement dans la rue. C'est pas que je voulais faire du sport. J'imaginais quelques accords pour planter un nouveau décor. Qui me fasse oublier que t'es pas venu, que je suis trop vieille pour être connue. Que plus sexy, je serais peut-être signée, mais comme les autres, je me ferais saigner. Peut-être même que je devrais baiser, succès assuré sans plan B. Mais les plans cul sans cœur dedans, je trouve ça bien trop déprimant.
Mais les plans cul sans cœur dedans, tu trouves pas ça trop déprimant?
Pour oublier la vacuité, alors je retourne au piano. Oscar Peterson met de dos, je me suis relancée dans une impro. Il a plu, ici il fait dégueulasse. La ville croule sous la crasse des cartons où il s'entasse. Mais on sourit, on garde la face, selfie stories. Y'a des bombes qui tombent, des gens crèvent de faim. On espère que ça passe ou on attend la fin.
Oui, mais toi t'as beaucoup d'humour.
Sans mon humour, je serais déjà morte. Tellement qu'ici il pleut des cordes et puis y'a pas beaucoup d'amour.
Oui, mais toi t'abandonnes pas.
Si j'abandonne, je me noie comme une vieille mouche dans un coca.
Comme une vieille mouche dans un.
Pour oublier la météo, la vacuité et le chaos, je suis retournée au piano. Fats Domino version manchot,
je me suis relancé dans un solo.